16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Le 16 novembre 1971, Stéphane Bern, alors âgé de 9 ans, écrivait dans son journal intime « Cher journal, ce week-end, pour mon anniversaire, papa et maman m'ont offert un service à thé en porcelaine aux armes de la famille royale de Luxembourg. Je n'ai pas honte de l'écrire, c'est le plus beau jour de ma vie. » 49 ans plus tard, il vient de fêter samedi son anniversaire, 9 ans et des brouettes, on dira « Bon anniversaire Stéphane Bern !» Je crois savoir qu'à l'occasion, une petite entorse au confinement a été faite. Hein, samedi soir, petite sauterie à la maison. D'après ce que j'ai compris, certains, comme David Castello-Lopez, ont fini dans un sale état.
Un postérieur barbouillé de moutarde. Très chic.
Oui, vous n'avez pas eu ce degré de détail. Bref, bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour 2 heures d'histoire. Aussi décomplexé que vous, ce qui n'est pas peu dire. Tout cela est faux, j'aimerais le dire à mes proches, parce que, après, moi, je reçois des appels, vous comprenez?
Oui, pourquoi j'étais pas invité?
Des gens qui s'étonnent de la vie rêvée que vous me prêtez et que vous racontez à l'antenne. Tout ça, les gens qui me connaissent voient bien que tout ça est faux. Chaque après-midi, 3 personnages qui, sur le papier, même à la radio, n'ont rien à voir et qui pourtant ont un point commun.
Un point commun sur le papier, justement, puisque comme vous, enfant, Stéphane, nos personnalités du jour sont de célèbres diaristes. Ils tenaient tous un journal intime.
Oui, évidemment, la jeune Anne Frank, devenue la diariste la plus célèbre au monde. Samuel Pepys, qui a écrit un journal si détaillé qu'il permet de connaître parfaitement l'Angleterre du XVIIe siècle. Et vous, Mathieu, pour mon anniversaire, vous avez décidé de me gâter, mais je crains un peu le cadeau empoisonné.
Et si on plongeait dans le journal intime de la reine Elisabeth II?
Shocking. How dare you?
I don't know, Stéphane, but I dare quand même.
Je rappelle que personne ne l'a jamais lu. Hein.
Ah, que vous croyez? Parce que pour Europe 1, il y a peut-être eu de l'investigation, qui sait?
Non. Personne ne l'a jamais lu. Bon, enfin, et comme chaque jour dans l'émission, ceux qui écrivent aussi au quotidien leur journal intime, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Alors, les grandes ce monde, bonjour messieurs, aujourd'hui ça n'est pas tout à fait ça, mais moi j'ai pensé à votre thématique du journal et qu'est-ce qui accompagne le journal du matin en France, hein, sur le zinc d'un bistrot, le café croissant, bien sûr, le petit noir. Alors aujourd'hui, je vais marcher sans vergogne sur les plates-bandes de David Castello-Lopez et Olivier Pauls et je pose la question, depuis quand ça existe le filtre à café?
Eh bien, David le sait.
Et il le sait certainement, mais moi je vais vous l'apprendre de façon plus détaillée, sans doute. Depuis qu'une mère de famille allemande l'inventa en voyant son fils rentrer de l'école.
Donc un petit retour. Elle a mis une chaussette et voilà.
Pas du tout. Alors vous verrez l'histoire de celle qui allait révolutionner les petits déjeuners du 20e siècle. Vous verrez ça tout à l'heure.
Je crois que c'est la Marie Curie, moi je comprends plus.
Vous vous dites qu'est-ce que c'est que cette histoire, mais Stéphane, ça n'est pas totalement par hasard que j'évoque cette dame. À tout à l'heure. Non.
Nous verrons ça. À mes côtés, David Castello-Lopez, on vous a piqué ce qui aurait fait un très bon sujet dans votre chronique aux origines.
C'est vrai, mais moi je suis dans la générosité, vous voyez.
Je suis
comme ça. Non, aujourd'hui, je ne vous ai pas vraiment souhaité votre anniversaire l'autre jour, le 13.
Oui, c'est vrai.
J'aimerais aussi souhaiter celui de Stéphane. Et donc aujourd'hui, j'ai encore
vous
une fois. J'essaie de me rattraper et je vais vous faire les origines de la chanson Joyeux anniversaire.
Oh, cette sublime chanson. Exactement. Qu'on aime tous chanter et entendre.
Ah oui, et dans toutes les langues en plus. Oui.
Tout à fait.
C'est merveilleux.
Avec Olivier Pouls, alors vraiment, Olivier, pouviez pas me faire plus plaisir, moi qui suis très attaché au pays de Combray, évidemment, le pays de Marcel Proust, c'est la Madeleine
de
Commercy.
Je portais à mes lèvres une cuillère du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de Madeleine, mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Voilà, les Madeleines, voilà. Mais pas uniquement celles de Proust. Parce qu'en réalité, dans la première version du livre,
on en a parlé. Oui, c'était un pain grillé.
Mais nous, on va faire les Madeleines, c'est plus sympa quand même. Hein.
Oui. Mais la Madeleine, évidemment, elle vient de Commercy.
Oui.
Le menu me plaît aujourd'hui, vraiment.
Elles sont toutes chaudes, elles sortent du four.
Le menu vous plaît, Stéphane, mais jusqu'à un certain point, puisque vers 5h-10, nous combinerons la culture et le rire en jouant à Burn to be Alive.
Oui, mais tout ça me va bien.
Ce quiz cocasse qui permet chaque jour, vers 5h-15, de sonder les limites des connaissances historiques de Stéphane Bern. Après votre anniversaire, ce sera votre fête. Quelle période! Mais tout de suite, découvrons notre première diariste du jour, la plus emblématique, certainement. Stéphane Bern, vous nous brossez le portrait d'Anne Frank.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Comment consacrer une spéciale aux auteurs célèbres de journaux intimes sans l'évoquer ? Stéphane nous raconte évidemment Anne Frank.
Vendu à 30 millions d'exemplaires, traduit en plus de 70 langues, il est le journal le plus lu dans le monde. Anne Frank, son auteur, avait 13 ans quand elle y a couché les premières lignes en juin 1942. Seulement 15 quand elle y entre les dernières lignes le 4 août 1944. Ce jour-là, elle est arrêtée par la Gestapo d'Amsterdam, déportée à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, sa dernière demeure. Publié après la guerre à titre posthume, le journal d'Anne Frank, adolescente juive d'origine allemande, représente aujourd'hui l'un des témoignages les plus précieux et les plus éloquents sur la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Véritable monument littéraire et historique, il retrace avec une précision presque clinique le quotidien de la jeune fille durant les 25 mois où elle est restée cachée dans un Amsterdam sous occupation allemande. Deux années, entre juillet 42 et août 44, cloîtrée avec sa famille et quatre autres personnes dans une annexe secrète de l'usine de son père, entre espoir et peur.
Faire du vélo, danser, siffler, découvrir le monde, me sentir jeune, savoir que je suis libre, voilà à quoi j'aspire.
Pourquoi et comment ce journal intime est-il devenu un tel monument littéraire et historique ? Quel parcours, quelle motivation ont amené Anne Frank à consigner si méticuleusement sa vie dans ses carnets ? Comment cette jeune adolescente anonyme est devenue une véritable icône, le symbole même de l'horreur endurée par toute une population pendant la guerre ? Tout commence en 1933. Anne Frank n'a que 4 ans lorsqu'Adolf Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. Elle vit alors à Francfort avec son père Otto, homme d'affaires, et sa mère Edith, et sa sœur aînée Margot. La famille y mène une vie paisible et confortable, mais la montée du nazisme en Allemagne va bouleverser leur destin. Pressentant la menace et les horreurs à venir, Otto décide dès le mois d'août 33 de quitter le pays, direction Amsterdam aux Pays-Bas. Il y installe sa famille dans le quartier des Rivières où vivent d'autres réfugiés allemands, dans un appartement certes plus petit que leur maison bourgeoise de Francfort, mais où la famille mène durant plusieurs années une vie heureuse. Otto Frank monte une entreprise qui vend des additifs alimentaires et des épices. Les affaires marchent plutôt bien. Les témoignages de proches ayant connu la famille Frank à cette époque racontent qu'Anne était une enfant pleine de vie. Contrairement à sa sœur, que l'on dit timide et réservée, elle est de nature extravertie, curieuse et impulsive. Ses parents, soucieux de développer les qualités de leur fille, l'inscrivent dans une école Montessori. La méthode d'éducation de l'établissement, basée sur la liberté et la créativité, convient bien à la personnalité de Anne. Elle excelle dans ses études. Mais la guerre va rattraper ce bonheur éphémère. En mai 1940, l'Allemagne envahit les Pays-Bas. Les Juifs en sont les premières victimes. Des lois répressives et discriminatoires sont instaurées. Interdiction de prendre les transports publics, d'entrer dans les parcs, d'aller au cinéma, de fréquenter les mêmes établissements scolaires. À contre-cœur, Anne Frank quitte son école pour le lycée juif. Elle porte désormais l'étoile jaune. Pire encore, les déportations vers l'Allemagne commencent. Le 5 juillet 1942, sa sœur Margot reçoit une lettre de convocation pour l'Allemagne. Ses parents se doutent de ce que cela signifie. Son père, prévenant, a secrètement anticipé cette situation. Avec l'aide de collègues, il a fait emménager un appartement secret dans son usine du quartier ouvrier de Jordan. Au numéro 263, Prinzengracht, dès le lendemain, il y installe dans la clandestinité toute sa famille. Cette annexe, à laquelle on ne peut accéder que par un escalier dissimulé derrière une bibliothèque, ils y vivront 2 ans. Cloîtré dans un espace d'environ 100 mètres carrés qu'il partage avec 4 autres personnes, une famille, les Van Pels, Hermann, Augusta et Peter, et un dentiste ami des Frank, Fritz Pfeffer. La vie s'y organise tant bien que mal, avec ses hauts et ses bas, ses tensions. Il faut dire que les conditions de cette vie clandestine sont difficiles. Il leur faut être en permanence silencieux, car tout s'entend dans le bâtiment. Les pas sur le plancher, les voix, l'eau courante, et l'entreprise est toujours en activité. Très peu de personnes savent qu'ils sont là. Seulement 6 complices connaissent l'existence de la cachette. Des employés de l'entreprise, dont les 2 directeurs, à qui Otto a cédé les rênes de l'entreprise, et leurs proches. C'est eux qui les ravitaillent en nourriture. Dans cet espace cloisonné où le silence est de mise et dont elle ne peut pas sortir, Anne a trouvé une échappatoire, une manière de passer le temps et de rêver un avenir meilleur. Elle écrit. Quelques semaines avant leur entrée dans cette vie de clandestinité, le jour de son 13e anniversaire, Anne a reçu de son père un ravissant carnet en tissu rouge et blanc. Elle décide d'en faire son journal intime. Et dès le mois de juin 1942, elle y consigne sa vie, ses sentiments, ses pensées, ses espoirs. Ce qu'elle perçoit du quartier par la lucarne du grenier, les toits d'Amsterdam, le marronnier du jardin de l'annexe, les sons extérieurs, les cloches de l'église Westerkerk, les bombardements aussi.
Je vois le monde transformé de plus en plus en désert. J'entends toujours plus fort le grondement du tonnerre qui approche et qui annonce probablement notre mort. Je compatis à la douleur de millions de gens et pourtant, quand je regarde le ciel, je pense que ça changera et tout redeviendra bon, que même ces jours impitoyables prendront fin, que le monde connaîtra de nouveau l'ordre, le repos et la paix.
On vient de l'entendre, ces réflexions ne portent pas que sur son quotidien et sur elle-même. Elle pose sur le monde extérieur un regard d'une lucidité et d'une maturité remarquable pour son jeune âge. Un monde qui lui est tragiquement hostile, mais qu'elle s'applique à chroniquer avec soin.
Est-ce qu'elle se doutait, Stéphane, qu'elle serait lue? Quand on l'entend, on a l'impression qu'elle écrit un peu pour les autres.
C'est une bonne question, Mathieu. Je vais vous raconter un épisode qui a eu lieu en début 1944 et qui a soufflé à la jeune Anne Frank un nouveau projet, vous verrez.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
On s'intéresse aujourd'hui dans Historiquement Vôtre au grand diariste de l'histoire, ce qui tenait un journal intime en pleine Seconde Guerre mondiale. Celle qui est devenue une véritable icône de cette période sombre, la jeune Anne Frank, écrit son journal intime justement pour elle et peut-être bien aussi pour les autres. Vous nous parlez maintenant, Stéphane, d'un événement qui a eu lieu dans la vie d'Anne Frank au début de l'année 44.
Oui, les habitants de l'annexe dans laquelle Anne Frank vit avec sa mère n'avaient pas réellement de contact avec l'extérieur à part avec les personnes qui les aidaient. Leur seul autre véritable lien avec le monde se faisait par l'intermédiaire d'une radio grâce à laquelle ils captaient deux stations, la BBC et Radio Orange, la radio des Hollandais en exil. Début 1944, le ministre de l'Éducation des Pays-Bas fait une annonce qui va profondément marquer Anne. Il veut publier après-guerre les journaux intimes des Hollandais. À partir de ce moment-là, la jeune fille nourrit une nouvelle ambition. Faire lire son journal, partager avec des lecteurs ce qu'elle et sa famille ont vécu. Elle rêve d'être journaliste ou romancière.
Je me suis finalement rendu compte que je dois faire mon travail scolaire pour ne pas être ignorante, réussir dans la vie, devenir une journaliste. Parce que c'est ce que je veux. Je sais que je peux écrire, mais si j'ai vraiment du talent, ça reste à voir.
Elle décide alors de retravailler ses écrits. Son journal intime, mais aussi ses nouvelles, de les mettre au propre et de les combiner en un seul ouvrage, un roman qu'elle veut intituler « L'annexe ». Mais elle ne pourra pas terminer son projet. Le 4 août 1944, la Gestapo découvre l'appartement caché du numéro 263 Prinzengracht. Les 8 clandestins ont été dénoncés. Par qui? On ne le saura jamais. Ils sont arrêtés, puis envoyés dans une maison de détention et un camp de transit avant de partir pour la Pologne, et le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, le plus grand du Troisième Reich. Jugée apte aux travaux forcés, Anne Frank, sa sœur, sa mère et son père échappent aux chambres à gaz. Ça ne les sauvera malheureusement pas. En novembre 44, Anne et Margot sont envoyées au camp de Bergen-Belsen en Allemagne. Les conditions y sont terribles, à tel point que les deux sœurs n'y survivront pas. Elles succombent au début de l'année 45 à la même maladie, le typhus. Quelques semaines à peine avant la libération du camp par les troupes britanniques. Si l'on connaît dans les grandes lignes leur destin après l'arrestation du 4 août 44, c'est grâce au récit qu'en a fait Otto, le seul des clandestins de l'annexe qui ait survécu au camp de la mort. Car le journal d'Anne Frank n'a pas suivi la jeune fille dans les derniers mois de sa vie. Dans la confusion de l'arrestation à Amsterdam, il est resté à l'annexe. Et par miracle, il a été récupéré par deux des complices de l'usine. Quand il rentre aux Pays-Bas, Otto découvre les écrits de sa fille. La qualité de l'écriture, le ton, tour à tour poétique, triste, humoristique aussi. Sa volonté d'être lu par le plus grand nombre. Respectant le souhait de sa fille, il le fait publier en 1947. Anne Frank devient alors l'icône planétaire que l'on connaît aujourd'hui et la diariste la plus célèbre au monde.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Anne Frank, nous sommes avec Christine Laureau. Bonjour Christine.
Bonjour.
Vous êtes la représentante pour la France et l'Europe francophone de la maison Anne Frank qui se trouve donc à Amsterdam.
Tout à fait.
Christine Leroux, quand cette maison à Amsterdam où Anne Frank et sa famille sont cachées est devenue un musée forcément très particulier, c'est une émotion incroyable qu'on ressent quand on y entre, non ?
Tout à fait. C'est un musée tout à fait particulier, vous avez raison, parce que habituellement dans un musée, on s'attend à y trouver des collections, des objets, et là, c'est le vide qui nous surprend. C'est l'absence, c'est la disparition. Et on rentre tout à coup dans l'intimité d'Anne Frank, dans une grande proximité avec elle. On a l'impression d'effectuer un voyage dans le temps. Le musée est vide, tel qu'il était après que les nazis aient récupéré tous les meubles et vidé totalement l'annexe. Et on se retrouve dans la situation d'Otto Frank lorsqu'il revient d'Auschwitz et qu'il retourne dans son entreprise.
Est-ce que c'est un lieu qui est à l'image d'Anne Frank, qui est pas seulement triste, mais aussi poétique, quelque part ?
C'est extrêmement émouvant parce que dans la muséographie, on a souhaité maintenir les conditions dans lesquelles elle vivait dans la cachette. C'est-à-dire que les fenêtres sont occultées comme elles l'étaient pendant le temps de la clandestinité. Et donc, on se retrouve dans la pénombre. Et ça, c'est extrêmement émouvant. On va découvrir tour à tour dans la chambre, la petite chambre d'Anne, les images qu'elle avait collées au mur. On va découvrir un peu plus loin les traits de taille que son père avait fait pour les petites Anne et Margot au fur et à mesure qu'elles grandissent. On y retrouve des choses extrêmement quotidiennes qui la rendent extrêmement humaine.
Le journal d'Anne Frank est l'un des témoignages les plus célèbres qui nous soit parvenu de la Seconde Guerre mondiale. C'est le journal intime le plus célèbre de l'histoire d'ailleurs. Bien qu'on soit très nombreux à l'avoir lu dans Le Monde, il n'est plus intime d'une certaine manière puisqu'il est très public. Mais en même temps, il reste le journal intime par excellence, non ?
Alors, il y a autour du journal quelque chose d'un petit peu particulier, puisque, vous l'avez évoqué, Anne a réécrit son journal lorsqu'elle a appris que, après-guerre, il était possible que ses témoignages soient publiés. On n'écrit pas de la même façon quand on a 13 ans et quand on a 15 ans, d'autant qu'Anne a extrêmement maturé, elle a beaucoup grandi pendant ces deux années où elle a énormément écrit et énormément lu. Donc son style a totalement changé, et lorsqu'elle veut reprendre son journal pour en faire un roman dont elle souhaite qu'il soit publié, Elle retrouve des traces de ses écrits quand elle avait 13 ans et elle en est tout à fait dépitée. Donc elle va reprendre tout ça. Donc on a à la fois le journal intime qui est le témoignage de ce qu'elle avait écrit au jour le jour et au quotidien et la réécriture sous forme d'un roman que malheureusement elle n'a pas pu terminer puisqu'elle a été arrêtée avant la fin de cette réécriture.
Alors on va continuer à parler de nos auteurs de journaux intimes et en particulier d'Anne Frank avec notre invitée Christine Leroux sur Europe 1 dans un instant.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Cher journal, aujourd'hui dans Historiquement vôtre avec Stéphane, on a choisi de parler de ces personnages de l'histoire qui tenaient un journal intime. On parle évidemment d'Anne Frank avec Christine Leroux, représentante de la maison Anne Frank à Amsterdam. On se demande comment Anne Frank a écrit son journal, dans quelles circonstances, mais il faut aussi se demander finalement pourquoi écrire, décrire, c'est ce qui l'a aidé à tenir quelque part ?
Oui, elle témoigne, elle dit qu'elle écrit pour rester libre alors qu'elle est recluse dans ces quelques mètres carrés avec les fenêtres occultées dans la pénombre. Elle dit qu'elle écrit pour continuer à exister. Donc pour elle, c'est vraiment une affaire de survie. L'écriture, c'est sa liberté.
Son souhait le plus cher était d'être publié et c'est vrai qu'elle entend sur Radio Orange à ce moment-là l'annonce du concours du meilleur témoignage, je crois. Et ça la motive. Ça ne change rien à son journal, le fait qu'elle ait changé de d'objectif au cours de l'écriture.
Si, évidemment, il y a des parties du journal intime qu'elle ne va pas reproduire dans son roman. Lorsqu'elle est en colère contre sa mère, comme une adolescente peut l'être, et qu'elle écrit des choses un petit peu vives, ça n'a pas d'intérêt pour le récit qu'elle souhaite faire pour le roman. C'est une écriture défouloir, et à ce moment-là, évidemment, ça n'est pas reproduit. Elle n'a pas souhaité réécrire ces pages-là. Elle ne double pas tout à fait. Elle reprend ses écrits, et elle les remanie de façon à pouvoir les publier. De même, lorsque il y a quelques pages qui sont extrêmement curieuses où c'est l'adolescente qui découvre sa sexualité et qui se pose des tas de questions. Ces pages-là, elle ne souhaitait pas évidemment les donner en pâture à des lecteurs. Et ça resterait, selon elle, dans son journal intime et pas dans la partie qu'elle souhaitait voir publiée.
Alors, c'est Otto, son père, qui va mettre la main sur ce journal intime à son retour. Est-ce qu'on sait quels sont les passages de ce journal qui le touchent le plus? Enfin, c'est assez vertigineux d'imaginer un père qui retrouve le journal intime de sa fille quand on sait son destin. Est-ce qu'on sait ce qui l'a ému? Est-ce qu'on sait ce qui l'a fait sourire aussi? Il y a des passages qui... Il y a de l'humour dans le journal d'Anne Frank?
Alors, il en témoigne. Il dit que cette lecture a été extrêmement douloureuse et difficile. Il n'arrive pas à lire plus de quelques pages par jour. Il a mis très longtemps, plusieurs mois, avant de réussir à lire en entier le journal. Il dit aussi que les parents ne connaissent jamais vraiment leurs enfants. Il dit qu'il y découvre une âme beaucoup bien différente de celle qu'il connaissait. Et il est marqué surtout par la profondeur de l'écriture, par la profondeur de sa pensée, la maturité de sa pensée. Il dit qu'il n'imaginait absolument pas qu'elle pensait des choses comme ce qu'elle a pu écrire.
Christine Leroux, pour les gens de ma génération, évidemment, on a tous lu le journal d'Anne Frank qui nous a bouleversés. Dans les années, à la fin des années 70, au début des années 80, je crois que certains négationnistes ont réfuté le fait que le journal ait existé. Comment vous l'avez vécu, cette affaire?
Écoutez, moi, j'ai vécu les époques les plus récentes, puisque les choses les plus médiatiques étaient à partir des années 80-90, mais on sait que les négationnistes ont commencé à attaquer le journal d'Anne Frank, du vivant d'Otto Frank, c'est-à-dire avant son décès en 1980, dès les années 70, et ça a commencé en Allemagne par des anciens nazis. Donc, le journal a été remis en cause régulièrement, c'est quelque chose de récurrent, au fur et à mesure du succès du journal d'Anne Frank, au fur et à mesure que ça devenait un best-seller international, les négationnistes ont cherché à utiliser ce vecteur pour faire parler d'eux. Ils ont toujours, dans tous les cas, tout le temps, été condamnés par la justice, procès après procès, et on peut dire qu'il y en a eu des dizaines et des centaines.
Christine Leroux, à tous nos auditeurs qui n'ont pas lu le journal d'Anne Frank, il y en a peut-être certains, pourquoi leur conseiller de le lire? Qu'est-ce qu'on retient une fois qu'on referme le journal d'Anne Frank?
Simone Weil disait à propos du journal que le journal d'Anne Frank appartenait désormais à la culture universelle. Donc c'est vrai que c'est un élément de culture qui est porté à l'âge d'adolescent. C'est quelque chose qui est assez unique. C'est un repère, le journal d'Anne Frank, un repère pour ne pas oublier que ce qui s'est passé peut se reproduire. Et c'est un livre qu'on transmet à ses enfants, autant au niveau du témoignage que de la valeur des écrits et de la vie qui en ressort, parce que c'est malgré tout la personnalité de Anne, sa vivacité, son humour, comme vous le disiez, son amour de la vie qui est transmis à travers ce journal.
En tout cas, merci beaucoup Christine Leroux, et je peux vous confirmer, on a beaucoup d'émotions, évidemment, et à lire et à parler de d'Anne Frank. La maison Anne Frank, c'est à Amsterdam. Bon, il faut un peu patienter maintenant avant de pouvoir retourner la visiter. Mais évidemment, une fois qu'on aura le droit d'y retourner, il faut absolument aller la visiter. Et en attendant, on peut toujours lire le journal d'Anne Frank. Merci beaucoup Christine
Leroux.
Merci à vous. Merci à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours dans Historiquement vôtre, on vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle est là aussi pour nous raconter des histoires. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Ben oui, mais malheureusement, je doute que nous ayons jamais l'occasion de prendre un petit déjeuner ensemble. Nous ne faisons guère que goûter et manger des madeleines.
Tout arrive.
Tout bien, tout honneur. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une femme.
Pourquoi? En fait, votre problème, c'est quoi? C'est que ça soit en tout bien, tout honneur, ou qu'on ne prenne pas le petit déjeuner ensemble?
Mon capitaine.
Voilà. Elle se révèle de plus en plus dans sa chronique.
Ah, c'est une coquine.
Vous allez voir à quel point je suis coquine. Oui, je vous parle donc de cette femme, une allemande qui a révolutionné les petits déjeuners du XXe siècle en inventant le filtre à café. Hein, elle s'appelle Melita et elle voit le jour en 1873 à Dresde dans une famille où l'on vénère le papier. Oui, et pour cause, parce que son père est libraire. Alors si la psychanalyse avait déjà existé à l'époque, elle aurait probablement décrété que Melita, jalouse des livres auxquels son père consacrait le plus clair de son temps, avait cherché à matérialiser dans une invention la pulsion destructrice qu'elle nourrissait inconsciemment envers eux. Tu les as vus, tes maudits bouquins, papa? Ben voilà ce que j'en fais, tiop! Hein, un filtre à café par page. Bah bon, sauf que là, c'est pas la profession de son père, mais le buvard du cahier d'écolier de son fils Willy, qui va donner l'inspiration à Milita. Vous voyez, mauvaise langue, Stéphane, vous disiez le filtre à café, une chaussette et puis tu es ça. Pas du tout, pas du tout. C'était bien plus compliqué que ça parce qu'à l'époque, le café n'était pas fameux justement parce qu'il n'y avait pas de filtre. Il y avait
mais on met quoi alors?
Il y avait des vagues filtres en métal ou en céramique, mais ça donnait un goût très amer au café, puis ça laissait toujours un dépôt de marc au fond de la tasse. Alors, il y avait des filtres en lin, mais il fallait les laver. Donc, bonjour le boulot. Alors, Milita, consciente que le filtre à café idéal reste encore à inventer, elle se penche sur la question. Et à force de tâtonnement, vous l'imaginez, dans sa cuisine, en train de tout essayer, elle perce des petits trous avec un clou au fond d'un récipient en laiton qu'elle recouvre du buvard de son fils. Et c'est comme ça qu'elle parvient à obtenir un café moins amer et sans dépôt. Et comme le résultat plaît beaucoup à ses proches, elle s'enhardit et pour quelques pfennigs, elle fait breveter son invention. Le filtre à café Milita naît donc officiellement le 15 décembre 1908 et le succès est immédiat. Dès l'année suivante, à la foire de Leipzig, la jeune femme vend 1200 filtres qu'elle a préparés dans une pièce de son appartement. Oui, alors ça fait sourire, mais quelques années plus tard, en 1927, son entreprise emploie 80 personnes. Et non seulement ça, mais en même temps, elle est devenue l'une des premières femmes chefs d'entreprise de son pays. Et comme elle avait le souci du bien-être de ses employés, cette femme, qui était une ancienne mère au foyer, elle va faire de sa firme une pionnière dans les domaines de la réduction du temps de travail, des congés payés, etc. Elle a donc servi noblement deux causes sacrées, celle des femmes et du petit déjeuner. Mais au fait, quand même une petite précision, Milita se nommait Milita Benz, un patronyme très proche, donc celui de votre mère, Stéphane, Milita Bern. Avouez qu'entre Milita Bern et Milita Benz, l'homonymie était vraiment trop tentante, alors surtout qu'on vient de fêter l'anniversaire de Stéphane. Alors, voyez-vous, plutôt que de rappeler ici que Nagui, Louise Brooks, Claude Monet et les lapins crétins sont tous nés comme vous un 14 novembre, Stéphane, plutôt que d'évoquer les événements majeurs du 14 novembre 63, entre la première de la face nord de la Moucherolle et la création d'un service militaire de 3 ans à Cuba, eh bien j'ai préféré faire ce clin d'œil à celle qui vous a donné le jour. Après tout, c'est grâce à elle que vous êtes de ce monde, Stéphane, et c'est elle dont le nom lui aussi est gravé dans le marbre depuis la création en 2002 de la fondation Milita Bern-Schlanger pour la recherche sur le diabète. En vous souhaitant bon anniversaire, Stéphane, c'est aussi elle que nous saluons.
Oh, c'est gentil, merci beaucoup Clémentine. Oh là là, quelle émotion.
La fête n'est pas finie Stéphane, car Clémentine reste avec nous.
Oui, il y a le quiz.
Oh, le quiz, particulier
mais
aujourd'hui.
J'espère que pour mon anniversaire, vous allez me faire gagner quand même.
Je le rappelle, on fête ensemble l'anniversaire de Stéphane, donc voilà, l'idée n'est bien sûr pas de le laisser gagner, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire, mais bon, un peu quand même. On n'a pas tous les jours 70 ans, faut respecter
Vous plaisantez, dites donc.
Donc Clémentine, si je vous dis Marignan, vous me dites 1512, ok, voilà.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
D'habitude, c'est un moment de l'émission que Clémentine et Stéphane prennent très à cœur, où ils ne se font aucun cadeau.
Chacun sort son sabre ou son couteau à l'abordage.
Mais sauf aujourd'hui, puisqu'on fête avec 2 jours de retard l'anniversaire de notre cher Stéphane. Je compte donc, Clémentine, sur votre coopération pour faire exceptionnellement du quiz un moment agréable pour lui. Ah bon, de là à gagner, je ne sais pas, mais déjà, s'il ne perdait pas, ça serait un beau cadeau. Jouons à Burn to be Alive. Stéphane, première question pour vous. En 1946, suite au bombardement d'Hiroshima, un coffre-fort de la Mosler Safe Company est devenu mondialement connu car il est resté entièrement intact. Vrai ou faux?
Oh là là. Il était où ce...
Alors, c'était implicite dans ma formulation. Il était évidemment à Hiroshima. Parce que s'il était à Tokyo, ça n'aurait pas eu d'intérêt voilà, qu'il soit resté intact. Hein, bon.
Et si, il était peut-être dans une cave.
Donc, un coffre-fort, c'est mieux.
Est-ce qu'un coffre-fort super, super renforcé dans une cave à Hiroshima peut résister à une bombe atomique?
Moi, je pense qu'évidemment, si vous me posez la question, c'est qu'à mon avis, il a dû résister. Il devait être dans une banque d'Hiroshima. Ben, sinon, on ne parlerait pas de ce coffre, vous voyez, ça n'aurait pas d'intérêt.
Donc, votre réponse
La réponse est oui. Ce coffre est très célèbre parce qu'il a résisté à la bombe d'Hiroshima.
Vous avez gagné.
Magnifique, Stéphane. Comme quoi.
Alors, j'ai répondu au pif, hein, je vous dis.
La gagne aujourd'hui, c'est son anniversaire.
Ne dites pas ça, c'est cette année supplémentaire, c'est 70 ans qui vous permettent, à mon avis.
Mais arrêtez, j'ai beaucoup moins.
Beaucoup moins.
Oui, enfin, c'est bien. Faites croire que j'ai 70, quand les gens me verront, ils diront mais il a pris quelque chose, c'est pas possible.
Donc, c'était vrai, hein, ce coffre a été construit en acier et en béton en 1925. Un lieutenant de l'armée américaine sur place a appelé la société pour leur dire qu'il avait résisté à l'impact de la bombe atomique. La Mosler Safe Company s'en est servi évidemment comme argument de vente.
Argument de vente, bien sûr. C'est
oui, mais il y avait du béton, Stéphane, c'est ça peut-être
ben oui,
qui explique tout. Moi, j'imaginais le coffre-fort simplement en métal renforcé. Là, non. C'était un genre de bunker, en fait, ce coffre-fort.
Oui, mais comme certainement beaucoup de coffres. Venez ensuite, je vous ferai visiter quelques établissements très forts. Question sécurité. Question numéro 2 pour vous, Clémentine, justement. À la fin des années 80, Pepsi fait affaire avec le gouvernement russe pour commercialiser son célèbre soda. Le rouble ne valant pas grand-chose, la société américaine se fait payer en sous-marin. Vrai ou faux ?
Non. Alors, je vois pas comment une société privée américaine pourrait faire un deal qui porte sur des questions de défense pointues et un sous-marin. Donc, elle a dû se faire payer de façon particulière, certainement, mais certainement pas en sous-marin. Je réponds non.
Vous avez perdu.
Oh,
quel bel anniversaire pour Stéphane. Eh bien, écoutez, c'est une question vraiment intéressante. Effectivement, c'est vrai. Avant les années 80, Pepsi faisait du troc et se faisait payer en vodka. Déjà, ça c'est mal.
Oui,
puis la
oui.
société conclut des contrats de plus en plus importants. Pepsi, en 89, devient propriétaire de 17 sous-marins, une frégate, un croiseur et un destroyer. Pepsi fut un court instant la sixième marine de guerre la plus puissante au monde.
Qu'est-ce que ça,
vous ne l'apprenez que sur Europe 1, puisque même Clémentine...
C'est un poisson d'avril, c'est possible. Ils ont racheté des vieux sous-marins démilitarisés à Mourmansk en train de rouiller. C'est...
Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Marcel Dassault, le célèbre fondateur du groupe industriel Dassault, s'appelle Dassault parce que son frère, pendant la résistance, avait pris comme pseudo Char Dassault. Vrai ou faux ?
Rang. Il s'appelait Bloch à l'origine.
Ben oui, me semble-t-il, oui. Là, vous avez dit son frère.
Stéphane, non. Stéphane. Non, j'ai non, pas...
non. Non, arrêtez, arrêtez.
Mais qu'est-ce que vous faites, Stéphane, sous la table avec votre clavier? Non, ça suffit.
Non, j'ai pas de clavier sous la table. Je vous le jure.
Ça serait idiot d'ailleurs d'avoir un clavier sous la table. Vous l'avez sur la table. Cessez
non,
de,
mais
de
c'est vous qui avez rajouté des bruits.
Mais pas du tout. Je n'ai pas les moyens de rajouter des bruits. Comment voulez-vous que je fasse enfin,
si,
qu'est-ce que vous racontez?
Si, parce que vous travaillez dans une radio qui s'appelle Europe 1. On est spécialiste du contre-espionnage. Alors bon.
Qu'est-ce que vous répondez?
Je pense que c'est vrai. Je réponds que c'est vrai. Et puis voilà, parce que je sais qu'ils ont changé de nom pendant.
Donc vous répondez vrai un peu au hasard, mais finalement c'est votre anniversaire, et comme c'est votre anniversaire, c'est forcément la bonne réponse, c'est vrai, son frère c'était Paul Bloch, vous aviez bon aussi Marcel Dassault, c'était Marcel Bloch au milieu des années 40, ils changent tous les deux leur nom pour Dassault, Paul est mort à 87 ans, Marcel à 94, saluons ces grands capitaines d'industrie. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach, à 2 ans près, en quelle année Roger François Damiens a déclaré la journée sera rude.
Ah, en quelle année, à 2 ans près ? Ouh là là !
Oui,
alors,
je vous
attendez,
laisse une marge.
Quand est-ce qu'il a été Est-ce que c'est pas 1746 ?
Rappelons peut-être qui est Roger François Damiens.
Parce que... alors, Damien...
Oui, c'est celui qui a essayé d'attenter à la vie de Louis XV.
Ah, c'est bien,
alors,
Stéphane.
Alors, voyons voir. En quelle année meurt Louis XV ?
À 2 ans près.
Ils accèdent au trône assez tard. À mon avis, c'est 1770, non ? Louis XVI et Marie-Antoinette, au secours, Stéphane. Ça devait être 10 ans, 15 ans plus tôt. Moi, je dirais peut-être à 2 ans près. Ouais. Moi, je ne sais pas pourquoi j'aurais dit 1756, non ? Donc, je vais peut-être dire couper la poire en deux et dire 1756.
1756, à 2 ans près.
Vous avez gagné.
C'est pas
cadeau,
vrai.
Pas de cadeau, pas de quartier pour Stéphane, même pour son anniversaire.
Incroyable.
Vous étiez
tant mieux,
presque,
bravo,
c'était
bravo.
À 1 an près, 1757. Je dis vraiment bravo, Clémentine. Ça valait 2 points, me signale-t-on en régie, où vraiment on s'en fout visiblement de l'anniversaire de Stéphane.
C'est le jour où il va se faire écarteler, il dit « je crois que la journée va être rude ».
Mais vous voyez, c'est marrant, Stéphane, parce que ça, c'est vraiment, je n'avais aucune certitude sur la date et j'y suis allé au...
Magnifique.
Vous avez un instinct extraordinaire.
Je vais me permettre, de vous lire le moment, je vais raconter ce moment, vous l'avez très bien fait Stéphane, mais je vais tenter de le faire encore mieux. Il avait tenté d'assassiner Louis XV, on lui lit la sentence. Vous serez entaillé par un couteau aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes, votre main droite sera brûlée au feu de soufre, et sur les endroits où vous serez coupé, il y sera jeté du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la cire et soufre fondu, et ensuite votre corps tiré et démembré à 4 chevaux, et vos membres et corps consumés au feu, réduites en cendres, et vos cendres jetées au vent. C'est là qu'il a dit, la journée sera rude. Très beau.
C'est bien pour l'anniversaire de Stéphane.
D'histoire.
C'est une super question.
Honnêtement, ça me fait très plaisir.
J'imagine. Nous avons donc une dernière question qui va vous départager pour savoir si ces 70 ans de Stéphane sont un grand jour ou pas. Question numéro 5 pour les deux. La vie de reine, c'est cool. Qu'est-ce que Elisabeth II demande à ses assistants? 3 propositions. 1. De mettre des bouillottes chaudes 30 minutes avant qu'elle aille se coucher et de les retirer juste avant. De lui porter ses chaussures en cuir pour qu'elle se fasse. Ou de lui résumer les derniers épisodes de Secret d'Histoire au cas où Stéphane Bern l'appelle.
Non, ça, Secret d'Histoire,
c'est pas porter ses chaussures,
revanche,
je dirais.
Les deux premières sont vraies.
Moi, j'ai dit porter ses chaussures.
Vous dites uniquement porter ses chaussures. Eh bien, Stéphane, je suis désolé, j'aurais voulu aller dans votre sens, mais la seule bonne réponse de toutes celles que nous avons données, ce sont les chaussures. Les chaussures de la reine sont portées pour qu'elles soient vraiment confortables quand elle les met pour la première fois. Cette histoire de bouillotte, Stéphane, c'est chez vous, à Tirongardé, que ça se passe, mais visiblement pas à Buckingham, voyez-vous. C'est l'anglaise Stewart Parvin, styliste de la reine depuis 7 ans, qui a révélé ces informations dans une interview au Sunday Times. Néanmoins, si vous voulez déposer une réclamation et que vous pensez savoir qu'à Buckingham, des petites bouillottes sont apportées, glissées dans le lit de la reine, vous pouvez le faire maintenant, Stéphane, ou vous taira jamais.
L'histoire des bouillottes est vraie, ça je le sais.
Mais ça vous le savez, vous le savez d'où?
Parce que ça a été raconté notamment dans la vie quotidienne à Buckingham Palace au temps d'Elisabeth II. Un excellent livre d'ailleurs qui est sorti il y a quelques années. Et on sait aussi qu'elle demande à ce qu'on lui, pour éviter d'avoir mal aux pieds évidemment, qu'on lui use les chaussures, pas au point de les abîmer, vous voyez, mais qu'on les fasse d'abord, voilà.
Et donc là, nous sommes face à je suis désolé Clémentine, mais il faut quand même croire la parole de Stéphane Bern.
Oui,
s'il nous dit qu'il y a
sûr.
Deux réponses
oui.
et non pas une
oui,
qui
oui,
sont
oui,
valides,
oui.
Il faut suivre, je dirais, surtout au lendemain de son anniversaire.
Alors, pour mon anniversaire, j'offre cette victoire.
Oh, non,
suffisamment peu vous souvent pour garder
bon
la victoire quand vous l'avez.
J'ai gagné autant de fois que Clémentine. On a tout rééquilibré ces derniers temps. Vous savez, au début, c'était un peu comme un diesel. Le démarrage était difficile. Mais maintenant
c'est
que
lui,
j'ai
le
un
diesel,
bon, maintenant que j'ai un bon rythme de croisière, non, j'offre. J'ai tellement de victoires d'avance.
Maintenant, Stéphane, vous êtes parti pour la gloire. Joyeux 70 ans, Stéphane. Je me permets de redire au nom de tous nos auditeurs qui vous embrassent fort.
Oui, d'accord. Écoutez, je viens.
On a un vestige pour l'occasion.
Est-ce que vous pouvez me rendre mon déambulateur, s'il vous plaît?
Parce ça vient.
Voilà, c'est gentil. Merci beaucoup.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Rire et découvrir chaque après-midi, vous raconter l'histoire sans se la raconter, c'est ça notre mission, Stéphane.
Oui, Mathieu. Chaque fois autour de 3 personnages qui, sur le papier, n'ont rien à voir et qui pourtant ont un point en commun. Aujourd'hui, celui de tenir un journal intime. Vous le faites peut-être vous aussi, Mathieu, non?
Oui, mais je peux pas révéler de passage de ce journal à l'antenne. Il est trop tôt.
D'accord.
Parce qu'il y a que des choses.
Oui, ma vie tourne. Je suis un obsédé et je n'ai pas peur de le dire.
D'accord, en fait, vous notez vos conquêtes, comme David Cassel-Lopez. Il met des notes à chaque fille qu'il rencontre. Après Anne Frank, je vais vous parler d'un des journaux intimes préférés des historiens, car il est tellement détaillé qu'il permet de connaître parfaitement l'Angleterre du XVIIe siècle, celui d'un certain Samuel Pepys. Et quant à vous, Mathieu, on le sait, vous osez tout, c'est même à ça qu'on vous reconnaît. Vous allez donc vous introduire dans la chambre à coucher de la reine Elisabeth II, pour tenter de lui shipper son journal intime.
Oui, elle est dessus depuis l'adolescence, c'est dire, sauf son respect, le nombre de tomes qu'il doit y avoir. Un journal intime qui évidemment alimente tous les fantasmes. Qui raconte-t-elle donc politiquement, économiquement?
Mais alors sexuellement?
Non, sexuellement, nous verrons, Stéphane. Soyez patient.
Non, je vous en prie. Alors, sans oublier évidemment nos diaristes préférés, ceux qui nous accompagnent tous les jours dans Historiquement Vôtre, Olivier Pouls et sa recette de la Madeleine.
Oui, moi aussi j'entretiens un journal intime, mais dans lequel je ne note que des recettes. Ah, c'est pas mal, ouais, j'ai décidé de vous l'ouvrir, enfin en partie aujourd'hui, et je vous donnerai ma recette de la madeleine. C'est pas moi qui l'ai inventée, mais...
C'est dur à faire, la madeleine ?
Non, c'est extrêmement simple, extrêmement rapide.
Il faut juste les moules,
mais ça, c'est pas très compliqué.
Stéphane, c'est vous qui aurez le mot de la fin, comme d'habitude, chaque jour, l'origine d'une expression qu'on utilise au quotidien sans forcément en connaître l'origine. Aujourd'hui, y aller mollo.
Oui, bah oui. Quand on dit « allez-y, mollo », ça vient d'où, mollo ?
Bah, mollo,
c'est où, d'ailleurs ?
Ah. Et puis lui, il nous fera découvrir, comme toujours, l'origine d'un objet inventé par un Français mais breveté par un Américain. On l'adore, même s'il faut bien avouer que c'est le bobo. Dans toute sa splendeur, un modèle quasi prototypique, le genre de type ultra branché qui ne daigne pas regarder un match de foot, mais qui, en revanche, peut soudain s'écrier dans l'open space.
Il y a un record du monde de Rubik's Cube en apnée sous l'eau.
David Castello-Lopez, vous êtes en forme ? Quel objet vous avez apporté pour l'anniversaire de Stéphane ?
Alors, ce n'est pas un objet, j'ai oublié.
Vous avez pensé à l'anniversaire de Stéphane ?
Oui, mais bien sûr.
Ah oui, bon,
c'était samedi, le vôtre c'était vendredi. Je ne vous ai pas vraiment souhaité votre anniversaire et donc j'ai décidé de faire les origines de la chanson « Joyeux anniversaire ».
Et est-ce que vous allez nous la chanter ?
Est-ce que vous chantez aussi bien que vous parlez toutes les langues ?
Je chante assez bien, oui, mais je suis désolé, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, je prenais des choses que je ne sais pas dessiner. Voilà, je sais pas
dessiner. C'est la seule chose qu'on ne peut pas vérifier en radio. Bien joué, Castello. Mais tout de suite, place les amis à notre deuxième récit. Stéphane, vous nous plongez dans un des journaux intimes les plus riches de l'histoire, celui de l'anglais Samuel Pepys.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Certains journaux intimes sont plus que le témoignage d'un individu, le portrait d'une époque, la preuve avec le journal de l'anglais Samuel Pepys.
L'homme dont nous allons parler aujourd'hui est la preuve d'une chose étonnante à retenir, Mathieu, d'ailleurs pour cette fin d'année un peu difficile. Certaines résolutions du nouvel an portent bel et bien leurs fruits. Ce fut le cas au XVIIe siècle avec celle de Samuel Pepys, jeune Britannique de 27 ans, issu de la petite bourgeoisie londonienne, et de sa décision... d'un 1er janvier 1660, de tenir un journal. Cette résolution, Samuel Pepys la tiendra avec assiduité pendant un peu plus de 9 ans, jusqu'à la fin du mois de mai 1669. Jusqu'à ce que la peur de devenir aveugle ne le contraigne à arrêter. Ces 9 ans furent une période décisive dans l'histoire de l'Angleterre. Avec la restauration de la monarchie des Stuarts après la guerre civile et la République de Cromwell, un temps de calamité aussi pour Londres avec la grande peste et le grand incendie, une période que Samuel Pepys a vécu depuis les premières loges à un poste important du gouvernement, faisant de son journal intime l'un des témoignages les plus exceptionnels sur le XVIIe siècle et un grand classique de la littérature anglaise. Pourtant, ces carnets, tenus avec rigueur par cet ambitieux et prolifique membre de l'élite britannique, n'étaient pas destinés à être lus. Bien au contraire, ils étaient même rédigés dans une sténographie visant à les rendre difficilement lisibles, parfois même dans un mélange de plusieurs langues, anglais, français, espagnol, au cas où quelque esprit curieux aurait tenté de le décrypter. C'est le cas de passages les plus licencieux, jugés plutôt. « Nous did bibber a good deal de vino et je did give el 12 solis para compare el some guns for a new anno's Egypt. » Vous avez compris, vous qui parlez bien l'anglais, Mathieu, vous avez compris quelque
évidemment,
chose?
Évidemment, Stéphane, ils ont bu du vin et il lui a donné de l'argent.
Vous n'êtes pas très loin. C'est un passage dans lequel Samuel Pepys raconte sa rencontre avec une jeune femme. En français, cela donne « Nous avons bu une grande quantité de vin. Je lui ai donné 12 shillings pour s'acheter des gants comme cadeau
s'acheter
de
des
nouvel
gants.
An. »
J'ai eu peur.
Oui, il n'a pas payé la jeune fille,
très bien.
Comme on le voit ici, le journal de Samuel Pepys ne recèle pas que des observations politiques. Il révèle tout un univers riche et palpitant, mêlant témoignages précieux sur son époque, mais aussi des intrigues personnelles et amoureuses. Un univers qui plonge le lecteur dans le quotidien d'un homme du XVIIe siècle, un homme ayant côtoyé le roi, ses ministres, mais aussi les grands esprits de son temps, comme Sir Isaac Newton, ou encore l'architecte Christopher Wren, et le poète et dramaturge John Dryden, et ayant vécu une vie pour le moins riche et mouvementée. Pourtant, vous allez le voir, il n'était pas forcément destiné. Samuel Pepys naît le 23 février 1633 à Londres, dans une famille somme toute assez modeste. Son père est tailleur, sa mère blanchisseuse. Samuel, lui, est un jeune homme brillant. En 1650, à l'âge de 17 ans, il obtient une bourse pour faire ses études à l'université de Cambridge. Quatre ans plus tard, engagé comme secrétaire par un cousin de son père, Édouard Montaigu, il fait ses premiers pas en politique. Montaigu n'est pas n'importe qui, c'est un conseiller d'État auprès d'Oliver Cromwell, alors au pouvoir en Angleterre. C'est une période tout à fait exceptionnelle que vit le pays pendant la jeunesse de Samuel Pepys. Pendant un siècle et demi avant les Français, les Anglais ont décapité leur roi, Charles Ier Stuart, et proclamé une république éphémère. Un régime très différent de la première république française, en cela, par exemple, qu'il est excessivement puritain. Le décès de Cromwell, le lord protecteur du régime, en 1658, va en précipiter la chute et sonner le retour de la monarchie. C'est au moment de cette restauration que le journal de Pepys débute. Au début de l'année 1660 exactement, et c'est aussi à cette période qu'il commence à se hisser dans les hautes sphères du pouvoir, grâce justement à son protecteur Montaigu, devenu entre-temps celui d'un homme dont on a déjà parlé, le comte de Sandwich. Il obtient cette même année le poste de clerc des actes au bureau de la marine, the Royal Navy.
C'était stylé d'être le comte de Sandwich.
Oui, Sandwich, c'était le nom d'un comté en Angleterre et non pas le comté que l'on met dans les sandwichs.
Astucieux pirouette, Stéphane.
Mais il y a un rapport, je vous l'accorde, puisque c'est l'un des descendants de ce Montaigu qui donnera son nom au fameux casse-croûte entre deux tranches de pain et aux îles Sandwich aussi, d'ailleurs. Enfin, revenons, si vous le voulez bien, à notre mouton, c'est-à-dire Samuel Pepys. L'année 1660 marque le début d'une longue et prestigieuse carrière qui le mènera en 1673 au poste de secrétaire de l'amirauté, bon, l'équivalent du ministre de la Marine, qu'il fera entrer au Parlement et qui se poursuivra jusqu'au renversement de James Stuart, James II, lors de la seconde révolution anglaise en 1688, quasiment jusqu'à sa mort donc en 1703. Grâce au journal qu'il a tenu entre 1660 et 1669, on connaît avec précision son parcours et par la même occasion ce qui se passe dans les sphères du pouvoir britannique durant cette période décisive. En tant que clerc des actes, Samuel Pepys passe ses années au plus proche du roi Charles II et de ses ministres. Il vit alors dans les locaux de la Marine royale près de la Tour de Londres, des locaux qui appartiennent à la couronne et dans lesquels le roi se rend régulièrement. Durant cette période, il est également aux premières loges de deux événements dramatiques qui vont tour à tour frapper Londres. D'abord, en 1665, quand la peste bubonique décime près de 20% de la population de la ville. Le 7 juillet, il écrit dans son journal « Ce fut hier la journée la plus chaude que j'ai vue de ma vie. Aujourd'hui, malgré moi, j'ai vu dans Drury Lane deux ou trois maisons avec une croix rouge sur la porte et l'inscription « Dieu ait pitié de nous ». Triste spectacle. » L'année suivante, en 1666, oh, c'est le chiffre du diable, il est le spectateur impuissant du grand incendie de Londres durant lequel les deux tiers de la ville furent détruits. Les récits qu'il fait de ces événements, tout comme ce qu'il rapporte de la vie politique, sont une véritable mine d'informations et de détails pour les historiens. L'historien des mœurs de l'époque n'est pas plus en reste. Samuel Pepys, dont la jeunesse a été marquée par le puritanisme du Commonwealth de Cromwell, se rattrape. Comme beaucoup de ses contemporains, il profite du relâchement des mœurs, tout relatif si on le compare à aujourd'hui, qui marque cette période. Son journal est une fenêtre sur les plaisirs de son temps, une foule de petits détails concrets, précieux, sur le Londres du XVIIe siècle. Les rues, les habitudes, les vêtements, la cuisine, les tâches qui incombaient à chacun. Samuel Pepys nous a offert un véritable voyage dans le temps.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour poursuivre ce merveilleux voyage dans le temps, nous avons fait appel à une spécialiste pour nous guider, l'historienne Nathalie Genet-Roufiac. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Bonjour.
Restez avec nous, on parle de Samuel Pepys dans un instant.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue, on évoque aujourd'hui ces personnages de l'histoire qui ont laissé derrière eux un journal intime, parfois vraiment précieux pour comprendre leur époque, comme celui de Samuel Pepys dont on parle avec Nathalie Genet-Roufiac.
Oui, Nathalie Genet-Roufiac, vous êtes historienne, vous avez notamment écrit Jacques II d'Angleterre, le roi qui voulut être saint chez Belin, un roi que Samuel Pepys, dont on parle cet après-midi, a côtoyé. C'était avant que Jacques II, d'ailleurs, ne devienne roi. En 1660, au moment où Charles devient roi, Jacques exerce les fonctions de grand amiral. Il réorganise en profondeur la marine avec l'aide, justement, de Samuel Pepys. Ce Samuel Pepys a notamment été secrétaire de l'amirauté. Il a, en fait, occupé des postes assez importants.
Oui, tout à fait. En fait, il a été longtemps présenté dans l'opinion publique britannique comme étant l'image du fonctionnaire qui a réussi par ses mérites. Puisque venant d'un milieu très modeste, il a bénéficié du patronage de deux grands protecteurs qui ont été conscients à la fois de ses capacités et puis très reconnaissants de son énorme capacité de travail. Alors c'est évidemment d'abord Édouard Montagu qu'il fait entrer dans l'amirauté en 1654-1655 et qui non seulement le fait rentrer dans l'amirauté mais lui explique les règles du jeu, c'est-à-dire que l'appartenance à l'administration royale est aussi une bonne manière de parvenir à un enrichissement personnel et à une vraie reconnaissance sociale. Et puis c'est évidemment surtout la figure du duc d'York qu'il rencontre en 1660 au moment où il accompagne Montagu chercher Charles II qui revient d'exil. La complicité entre les deux hommes est extrême. Il y a plus de 300 entrées du journal qui sont consacrées aux séances de travail entre Pepys et le duc d'York. Il va l'accompagner dans la réforme administrative maritime, dans l'écriture du règlement de la marine anglaise. C'est vraiment ce qui fait le rôle essentiel de Pepys dans l'histoire britannique.
Excusez-moi, mais vu ses fonctions, pourquoi Samuel Pepys décide d'écrire un journal intime? C'est commun pour un homme de son rang, quelque part, à l'époque, d'écrire un journal intime? C'est quelque chose qui se fait?
Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, oui, c'est assez répandu. Mmh. Le duc d'York lui-même a laissé des mémoires extrêmement volumineuses. Ce sont des hommes de l'écrit, et Pepys est aussi un homme de l'administration. Donc, le recours à l'écriture est pour lui quelque chose de naturel. En revanche, ce qui est particulier, c'est le fait qu'il ait voulu protéger cette écriture en utilisant un système de sténographie. Mais c'est certain qu'il l'a fait sans prétention littéraire. D'ailleurs, il y a des passages qui sont quand même très triviaux et au point de vue littéraire d'un style catastrophique. Et ça n'est pas non plus dans une démarche d'introspection. En fait, écrire un journal, c'est aussi conserver la mémoire des temps heureux et du succès et du bonheur. Et
en fait, il n'était pas destiné à être publié, ce journal. Vous le rappelez d'ailleurs justement là, en disant qu'il écrivait de façon triviale ou il le cryptait. Mais alors pourquoi a-t-il été publié? Qui a décidé de le faire?
En fait, le journal nous est parvenu de manière déjà assez étonnante dans la mesure où les 6 volumes avaient été reliés par Pepys lui-même et il les avait laissés au sein de sa bibliothèque. Et quand il est mort, sa bibliothèque a été léguée au Magdalen College de Cambridge où il avait été lui-même étudiant. Et c'est au sein de sa collection de livres que le journal a été retrouvé au début du 19e siècle par un étudiant, John Smith, qui est devenu révérend après, et qui s'est mis à tenter de déchiffrer le journal. Il lui a fallu 3 ans, de 1819 à 1822. Et ça a donné lieu à une première édition en 1825, qui a été publiée par Lord Braybrooke. Mais la première édition est extrêmement expurgée. D'abord, il y a à peu près 40% du journal seulement qui est publié. Et puis surtout, tous les passages que nous, on pourrait juger les plus savoureux ont été retirés. Et parfois, c'est même réécrit. Non pas parce que le style n'est pas à la hauteur, mais parce qu'il est parfois un peu trop trivial, justement. Ensuite, il y aura une très grosse édition en 1893, mais qui n'est pas encore exhaustive. Et c'est finalement très tardivement, uniquement entre 1970 et 1983, qu'on va enfin avoir l'intégrale du journal publié par l'édition de Latin et Mathews en 11 volumes, qui est la seule édition complète et non expurgée dont on dispose.
Mais dans son journal, donc ce qui est formidable, c'est tous les petits faits qu'on apprend sur la vie quotidienne à Londres au XVIIe siècle. Mais qu'est-ce que vous, il vous a appris, notamment sur cette période particulière de l'histoire de l'Angleterre, avec la restauration de la monarchie des Stuarts après la guerre civile et la république de Cromwell? Est-ce qu'il apporte des éléments nouveaux qu'on ignorait?
Oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant dans Pepys, c'est la combinaison de d'abord la vivacité d'esprit de Pepys lui-même, qui est toujours extrêmement ouvert et curieux de toutes les nouveautés. Deuxièmement, le fait qu'il a une vraie capacité à noter tous les petits détails de la vie quotidienne et avec une préoccupation justement du détail qui fait que on retrouve des événements, des récits, des descriptions qu'on trouvera pas dans des récits politiques ou dans des récit qui finalement aurait des prétentions littéraires ou des prétentions politiques. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que Pepys est à proximité de la cour et qu'il a donc, à ce titre, une vision très directe sur tout ce qui est la somptuosité et puis la flamboyance de la cour Stuart.
Pardon, Nathalie, une petite question pour terminer, physiologique. Stéphane a dit dans son récit qu'il a arrêté d'écrire son journal intime parce qu'il avait peur de devenir aveugle, perdre la vue. C'était parce qu'il écrivait trop ou ça n'a rien à voir?
En fait, les deux sont peut-être liés. Manifestement, Pepys souffrait d'un problème aux yeux qui s'est aggravé du fait de son travail dans l'administration et son travail d'écriture, qui était donc évidemment le cœur de son travail au sein de l'amirauté. Ce qui fait qu'après 1673, on sait qu'il ne faisait que dicter les actes qu'il n'écrivait plus lui-même. Et c'est la raison pour laquelle lui-même dit en 1669 qu'il renonce à écrire son journal parce qu'il a vraiment trop peur de perdre la vue.
En tout cas, merci beaucoup Nathalie Genet-Rouffiac. Je rappelle votre livre « Jacques II d'Angleterre, le roi qui voulut être saint ». Ça, c'est pas une vocation que Mathieu Noël, à laquelle il aspire. C'est bien
Qu'est-ce
dommage d'ailleurs.
Qu'est-ce que vous racontez, Stéphane ?
Mais c'est paru chez Belin dans la collection Portrait.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on évoque les auteurs de journaux intimes, tellement intimes que ceux d'Anne Frank, Samuel Pepys ont été édités et lus dans le monde entier. Et il y en a en revanche un de journal intime qui ne sera probablement jamais, mais jamais publié. Du moins, je l'espère, Mathieu, j'en serais très choqué. C'est celui que tient tous les jours, depuis des années, la reine d'Angleterre, Elisabeth II.
Oui Stéphane, effectivement, il est peu probable que celui-ci sorte un jour en poche. C'est ainsi, certains journaux intimes sont trop explosifs par leur contenu ou, comme le vôtre Stéphane, trop olé olé pour être publiés.
Vers toi je rampe encore indigne, oui. Monte sur mes reins et trépille.
Oui, non, merci Stéphane, je vous rappelle, c'est le confinement, on n'est pas censé voir d'amis. Son journal à elle est-il olé olé? On ne saura probablement jamais car vous allez voir le niveau de sécurité autour du journal intime d'Elisabeth II est maximal. Seuls les codes nucléaires du bureau ovale et le code du portail de Stéphane à Tiron gardé, 6-4-18-14, date de la Restauration, sont mieux gardés. Et c'est normal. S'il est un journal intime qui suscite tous les fantasmes, c'est bien sûr celui d'une des personnes par devoir les plus secrètes du monde, la reine Elisabeth II. Heureusement, pour tenter de deviner ce qui se cache à l'intérieur, on a la chance d'avoir avec nous le plus grand spécialiste français de la monarchie anglaise. Stéphane, aujourd'hui, c'est une chronique à trous. Je compte sur vous pour nous dire la vérité sur votre grande copine, celle que dans l'intimité, vous appelez Babef, en lui tapant dans le dos. Si d'aventure, vous décidez de ne pas collaborer, c'est-à-dire de ne pas nous révéler d'infos croustillantes concernant la reine, je me verrai obligé de rediffuser un extrait d'une précédente émission qui ne jouerait pas en votre faveur auprès de la reine.
Ah, ça ira. Les aristocrates tant.
Et qui pourrait même compromettre vos chances d'être à nouveau un jour accrédité à Buckingham. Je compte donc sur vous, Stéphane. D'abord, pouvez-vous nous confirmer que, comme on l'a lu dans la presse, la reine tient bel et bien un journal intime? Déjà, est-ce que c'est vrai?
Ah oui, absolument. Tous
ça,
les soirs, elle écrit.
Oui, mais
ah
ça, je vais vous le dire. Ouais. Alors, Stéphane, vous connaissez évidemment la devise de la reine, « Never explain, never complain », ne jamais se justifier, ne jamais se plaindre, sauf donc à son petit journal intime, c'est sa soupape, son exutoire quotidien, car on l'oublie trop souvent, mais un cœur bat sous ses tailleurs aux couleurs interdites aux épileptiques. Si on l'oublie, c'est peut-être d'ailleurs la faute au physique de la reine, je suis désolé Stéphane, elle le dit elle-même, « C'est terrible, si je ne souris pas, j'ai un genre de visage à l'air ronchon ». C'est vrai que personne ne la connaît réellement en profondeur, mis à part son journal intime et le prince Philippe, son époux, qui a accès à ce journal intime, ne méprenez pas ma phrase. Alors, faut-il vraiment resituer Elisabeth II? Si je devais résumer très schématiquement sa vie en quelques points pour ceux de nos auditeurs qui n'auraient pas vu The Crown sur Netflix, ce qui serait d'ailleurs une erreur, je dirais naissance en 1926, son tonton épouse une femme divorcée, c'est donc son frère, le père de Babette qui devient roi, George VI, à la mort de papa, elle accède au trône, et ça c'est The Crown saison 1 épisode 2, elle est couronnée le 2 juin 53. Côté love, il y a un petit doute. Quand son statut Facebook a-t-il changé? Quand est-il passé de célibataire à en couple, sans passer, comme la plupart d'entre nous, par le « c'est compliqué ». Elle aurait rencontré son futur époux, Philippe Mountbatten, à l'âge de 13 ans, mais certains c'est 18 ans. Stéphane, quel est le juste prix?
Moi, je pense que c'est plutôt 13 ans quand il est venu en visite à Portsmouth.
À Portsmouth, adjugé. Selon la légende, mais il faudrait vérifier dans le fameux journal intime, elle en tombe immédiatement amoureuse. Là encore, Stéphane, vous étiez là, holding de chandelle.
Oui.
On peut parler coup de foudre.
Oui, vraiment, c'était, faut l'imaginer, il était grand, il était blond, il sentait le
sable chaud.
Oui, c'était un viking, quoi.
Il se marie ensemble.
Même s'il était grec, hein, je le rappelle.
Oui, c'était un viking grec, c'est très rare, mais ça arrive.
Philippe de Grèce et de Danemark.
Alors, ils se marient ensemble, ils ont quatre enfants. Revenons au journal intime de Babette.
À plus de 94 ans, la Queen continue de rédiger son journal intime entrepris à l'adolescence, à l'âge de 15 ans, probablement influencée d'ailleurs par son père qui faisait de même. Journal dont vous l'avez compris à ce stade de la chronique, on ne sait rien, où elle collait sans doute déjà à l'époque des vignettes Panini, du traité de Versailles sans doute. Oh putain super, j'ai eu Clémenceau. Moi j'ai Lloyd George en double, je te l'échange contre Wilson. Non, on savait s'amuser à l'époque. Mais ce journal doit surtout être pour la reine comme un mini espace de liberté, le dernier bastion d'intimité où elle peut dire ce qu'elle pense franchement. Les pages sur Stéphane Bern doivent d'ailleurs être savoureuses. September the 5th. Just met a very funny guy with a weird head named Stephen Byrne. Preposterous name, I must say. I don't know why I made him Knight of the Britannic Empire Order. Maybe he paid for it. Because I really can't remember a reason for that.
Mais vous êtes fou.
Ah mince, vous comprenez l'anglais, Stéphane. Bah, désolé, je ne voulais pas vous décevoir, mais oui, j'ai eu accès à certaines pages du journal intime. Et la reine avoue ne plus trop savoir ni qui vous êtes, ni pourquoi elle vous a fait chevalier de l'ordre de l'Empire britannique.
Elle perd la tête. Oui.
Une chose est sûre. Elle perd la tête. Vous venez de dire que la reine d'Angleterre perdait la tête, Stéphane. Non. C'est vous qui allez perdre la vôtre. Une chose est sûre, à part moi et Philippe, son mari, personne n'a accès à ce journal. La reine écrit pourtant tous les jours, mais selon un procédé quasi militaire extrêmement sécurisé. 7h30, première tasse de thé apportée par sa femme de chambre qui allume la BBC et lui fait couler un bain tiède, ni trop chaud, ni trop froid. Et sans oublier évidemment le petit canard jaune, accessoire préféré de la reine, les piles sont changées tous les mois.
Comment osez-vous ? Non.
On est dans 99% vrai, je vous le rappelle les amis. Puis, elle rejoint Philippe pour partager un petit déjeuner pendant lequel, je cite, elle lit la presse en écoutant des musiques écossaises venant du jardin. Et oui, à Buckingham, c'est la grosse marade dès le matin. 9h30, la reine répond à une sélection de lettres, souvent des fans un peu gnangnans, voire ridicules.
Ma douce lumière, mon souffle, mon astre d'or.
Soupire la reine. This Stephen Byrne again. L'après-midi, elle se promène dans les jardins de Buckingham avec ses chiens, puis surligne ce qui l'intéresse dans la presse. Le soir, elle dîne en tête à tête avec Philippe, écrit dans son journal intime pendant 15 minutes, donc lit quelques pages d'un roman policier et rideau finito. 23h, elle met la viande dans le torchon. She puts the meat in the torchon. Ses écrits, évidemment, inspirent les fantasmes les plus fous. De quoi parle Babette dans ce mystérieux journal ? Y évoque-t-elle les supposées infidélités du prince Philippe ? Dénigre-t-elle sa belle-fille comme toutes les mères ? Et traite-t-elle Camilla de sombre conne ? On ne le saura jamais vu le niveau de sécurité mis en place autour de cet objet stratégique. Ses secrets, elle les emportera dans sa tombe car à sa mort, le manuscrit sera versé dans les archives royales du château de Windsor. Inaccessible pour l'éternité, écrit le journal Le Point. Sa rédaction même ressemble à une mission du MI6. Aujourd'hui, son personnel a pour instruction de détruire son papier buvard, ses brouillons, mais aussi les feuilles par-dessus lesquelles elle plante son stylo qui pourrait laisser deviner les mots qu'elle a rédigés. Il n'existe que deux clés de la mallette renfermant ses confidences, l'une qu'elle cache, l'autre que son secrétaire privé garde au cas où la première serait perdue. Son rituel est précis, immuable. Après son dîner, Elisabeth II s'assied à son bureau, décapuchonne le stylo plume et écrit pendant 15 minutes. Son équipe, je cite, n'est autorisée à la déranger qu'en cas d'urgence internationale, genre guerre nucléaire. Si jamais un jour Elisabeth II n'écrit pas dans son journal, c'est très mauvais signe pour la planète. Ses écrits sont ensuite rangés dans une petite mallette en cuir noir. Le Sun a interviewé un des membres de son staff qui déclare « Ces feuillets sont aussi précieux que les joyaux de la couronne. S'ils venaient à être égarés, le responsable serait probablement enfermé à vie. » Bonne ambiance au palais. On apprend aussi qu'un certain Michael Palin, comédien élevé au rang de commandeur de l'ordre de l'Empire britannique et anobli par sa majesté, c'est-à-dire un truc mieux que vous Stéphane, en a déjà discuté avec elle. Il déclare, au cours d'une discussion, alors que j'évoquais le journal intime que je tiens chaque soir, elle m'a dit qu'elle faisait de même. Elle m'a avoué que l'exercice devenait un peu difficile, car au bout de 15 minutes, elle se sent gagnée par la fatigue. Elle a d'ailleurs mimé sa tête qui cognait contre le bureau. Pour encore plus de sécurité, tous ses carnets sont numérotés en chiffres romains. Aucune date sur les couvertures. La reine seule sait à quelle année correspond quel chiffre. Oui, Stéphane, on ne badine pas avec le journal intime de la reine. We don't fuck with the Queen's Diary. Pourtant, lorsqu'on lui en parle, Babette minimise. C'est comme se brosser les dents. Ce n'est pas vraiment un journal comme celui de la reine Victoria. Vous savez, c'est beaucoup moins détaillé. C'est assez court en réalité. Ouais, prépare ses séances d'écriture comme une opération du Mossad, mais il n'y a rien à dire. Please. À l'occasion de son jubilé, la reine a en revanche mis en ligne le journal intime de son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria. 40 000 pages d'écrits, idéal pour occuper votre confinement. Elle a profité de la publication pour préciser à nouveau qu'elle n'avait aucune intention de publier son journal intime. C'est chic, hein, quand on ne veut pas balancer sur soi, mieux vaut balancer sur les autres pour faire diversion. D'ailleurs, Stéphane, est-ce que vous tenez un journal intime ?
Ah oui, absolument, oui. Je parle des recettes du jour, je parle de l'invention.
Bon, d'accord, vous me dites n'importe quoi, Stéphane, je vous avais prévenu.
Ah, ça ira. Les aristocrates.
J'espère que la reine nous écoute, Stéphane.
Oui, enfin, rassurez-nous, là, pour une fois, c'était pas 99% vrai.
C'était 100% vrai.
C'était 99% faux.
Non, c'était 100% vrai, Stéphane.
Il y a le canard.
Le canard, c'était faux, oui. Ça, c'est vrai.
Elle a pas de, oui.
Vous confirmez, elle n'a pas de petit canard vibrant.
Mais écoutez, j'ai jamais été la baigner dans, j'ai jamais pu l'avoir dans son bain. Bon, pour les fans de la reine, la saison 4 de The Crown est disponible depuis hier sur Netflix avec les débuts de l'idylle entre Lady Di et Prince Charles.
Est-ce que tout est vrai
faux maintenant. Maintenant,
c'est
oui, il faut faire de l'audience. Non, ils prennent un fait qui a été relayé dans la presse et ils le montent en épingle. Et voilà, c'est de bonne guerre, mais c'est romancé évidemment. Puis il y a un nouveau personnage que vous allez beaucoup aimer, Margaret Thatcher.
Oh, je vais l'adorer politiquement. Ouais. On a toujours.
Vous savez
été
ce que disait la reine de Margaret Thatcher?
Non.
Grattez le vernis, vous trouverez l'épicerie.
Wow.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Nous sommes dans la dernière demi-heure d'Historiquement vôtre, celle où le passé rejoint le présent pour illuminer, éclairer notre quotidien avec l'illuminé lui-même, David Castello Lopez, chaque jour, l'origine d'une invention.
Alors, c'était votre anniversaire, Mathieu.
Mais le dites pas de manière triste comme ça, c'était mon anniversaire.
C'était votre anniversaire vendredi, c'était le vôtre, Stéphane, samedi. Je vous ai d'abord préparé deux petites cartes où j'ai écrit un petit mot à chacun.
Oh non, c'est vrai,
c'est gentil.
Il n'y a pas grand-chose.
Mais un chèque.
Tout de suite.
Vous en voulez un? Oui, je vais vous le faire.
Non, il y a du liquide.
Joyeux anniversaire, c'est peut-être la chanson la plus connue du monde.
Mais pas la meilleure non plus. Hein.
Et surtout, a priori, c'est la seule chanson qui est à la fois connue et que tout le monde chante aussi. Et beaucoup de gens la chantent très mal. Mais il y a vraiment une sorte de tolérance karaokéesque, hein, j'ai envie de dire, pour les gens qui chantent faux. Si la chanson qu'ils chantent, c'est Joyeux anniversaire. Même les bougies qui chantent Joyeux anniversaire chantent faux. J'en ai amené une ici. Écoutez avec moi. Ah. Là, ça va encore, mais attention.
Oh là!
Ouh là là!
Oh, mais ça, c'est une bougie particulièrement pourrie. C'est du low cost.
C'est acheté dans un hypermarché.
Monsieur ne va pas n'importe où. Enfin, quand les hypermarchés.
Exactement. Et voilà. Donc, tout le monde chante faux. La chanson la plus connue du monde. Mais ce qui est assez fou, c'est que c'est international. C'est-à-dire, on la chante dans un nombre de pays incroyable. Même si en cherchant, je me suis rendu compte que c'était pas chanté non plus partout. Je savais qu'en Pologne, déjà, on ne chantait pas Joyeux anniversaire, on chante Stolat, qui veut dire 100 ans, tu auras 100 ans. Alors, j'ai pas lu d'études qui expliquent pourquoi certains pays chantent Joyeux anniversaire et pas d'autres, mais si on met sur une carte les pays qui le font, qui chantent vraiment Joyeux anniversaire, on se rend compte qu'en moyenne, c'est des pays qui sont dans la sphère d'influence au sens large des États-Unis. L'Amérique du Nord, une grosse partie de l'Amérique du Sud, l'Europe de l'Ouest, et en revanche, dans les pays de l'Est de l'Europe, par exemple, ils chantent autre chose en Pologne, en Roumanie, en Lettonie, en Russie. Ils chantent d'ailleurs pas la même chanson. C'est-à-dire, tous ces pays ont une chanson Joyeux anniversaire particulière. Il n'y a pas vraiment de chanson qui soit concurrente à Joyeux anniversaire adoptée dans plein de pays. Et moi, je pense que si on chante Joyeux anniversaire plutôt dans les pays qui sont dans la sphère d'influence des États-Unis, c'est parce que, à l'origine, c'est une chanson américaine.
Quelle vivacité d'esprit.
Et oui, je suis comme ça, moi, tac, déduction directe. Et oui, c'est une chanson qui, selon toute vraisemblance, a été écrite en 1893 par deux sœurs qui s'appelaient Patty et Mildred Hill. Patty, elle était directrice d'une école maternelle et Mildred, elle était pianiste. Vous vous souvenez que la maternelle, c'est le dernier endroit dans sa vie où on chante tous les jours au travail. Hein. Voilà. Et donc, on a besoin de plein de chansons. Et Patty et Mildred, elles écrivaient ensemble plein de chansons pour les enfants, dont une qui s'appelait pas encore Happy Birthday to You, mais Good Morning to You. C'était une chanson pour
good
dire
good morning, we've had a good night's sleep, good morning. Non, c'est pas ça?
Bah non, parce que du coup, c'était sur le.
Ah oui, c'était l'air de. Voilà, c'était déjà l'air de.
Happy Birthday to You. C'est-à-dire que ça n'avait ni les paroles, ni les paroles.
Ouais, mais ça excusez-moi.
C'était vraiment pas la même chose.
Ah, ça ne colle pas, dit Olivier Pouls.
Ça colle pas,
ça.
Good morning to you. Ouais, il y avait une note en moins. C'est vrai, il écoute. Non, mais il faut être précis, d'accord.
On a l'oreille musicale ou on l'a pas, hein.
Vous avez aussi tous les talents.
Et sans qu'on sache pourquoi, c'est devenu petit à petit une chanson d'anniversaire. La première source sûre imprimée avec une date qui associe les paroles sur l'anniversaire à la musique des sœurs Hill, elle date de 1912. Et à partir de là, ça a eu énormément de succès, au point que dans les années 30 aux États-Unis déjà, tout le monde l'a chantée.
Elles doivent palper grave à la SACEM, hein, les sœurs bidules.
Attendez. C'était déjà une chanson d'anniversaire que tout le monde chantait dans les années 30. Mais il s'est passé un truc étonnant à ce moment-là, c'est qu'il y a un éditeur de musique qui a déposé un copyright sur la chanson en 1935 et qui n'était pas les sœurs Hill. Ce copyright, il est passé de main en main jusqu'à atterrir entre les mains de la Warner. Et donc, la Warner, chaque fois que Happy Birthday était chanté dans un cadre public, elle réclamait des droits d'auteur qui lui rapportaient 2 millions de dollars par an. Il y a quand même eu des gens qui ont contesté ça au tribunal.
Ah oui.
Et finalement, en 2015, ça fait quand même, c'était il y a 5 ans, c'était il y a très peu de temps, il y a un juge américain qui a statué que non, en fait, joyeux anniversaire, c'était dans le domaine public. Donc aujourd'hui, on peut en faire ce qu'on veut. Et donc, j'en ai profité.
Ah.
Au Portugal. Hein, on n'a pas parlé de Portugal. Ah, on chante joyeux anniversaire.
Ça fait longtemps, oui.
Mais avec une...
Comment on chante ça?
Et au Portugal, on chante Joyeux anniversaire, mais avec une petite originalité, c'est qu'on se contente pas de dire Joyeux anniversaire 10 fois comme des cons. Hein.
Vous êtes plus raffiné que ça.
Il y a 2 couplets complets qui disent des choses super sympas et beaucoup plus variées que ce qu'on chante dans le reste du monde. Moi, mes souvenirs de Joyeux anniversaire en portugais, c'est surtout dans des fêtes de village où il y a toujours un orchestre de très mauvais goût qui le chante. Et donc, en hommage à tout cela, Stéphane, Mathieu, j'ai enregistré une version de Joyeux anniversaire en portugais pour vous, pour votre anniversaire. C'est parti.
Parabéns à você, minhas batatas queridas, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia
de
festa, cantam as nossas almas para o Mathieu e Stéphane.
Oh, Mathieu, Stéphane,
salva de palmas.
Mais alors, et vous avez fait les chœurs vous-même? Comment?
J'ai fait les chœurs moi-même. Donc, hier soir à 11h du soir.
Vous avez vraiment une vie fascinante, David.
Mais oui, mais c'est
mais
pour
j'embrasse votre compagne. Parce que pour subir ça, qu'est-ce que tu fous? J'enregistre
et surtout les voisins
pour Mathieu et Stéphane en portugais,
donc,
bien sûr.
La traduction. Félicitations à vous en cette date chérie. Beaucoup de bonheur pour vous. Beaucoup d'années de vie. Aujourd'hui, c'est jour de fête.
Disons le plus possible pour Stéphane.
Oui, voilà. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Nos âmes chantent gaiement.
C'est beau.
Pour Mathieu et Stéphane, une salve d'applaudissements.
Et en plus, il y avait des rimes. En portugais aussi, il y avait les rimes.
Il y a une. J'ai dû changer un tout petit peu un mot français pour que ça rime également en français. Je suis un traducteur qui prend son métier à cœur.
Stéphane,
vous êtes touché. Merci. Oui, très touché en plein cœur. Vraiment, ça m'a fait très plaisir. Merci David. Et on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Ce qui serait bien, c'est qu'ils isolent le passage santé, que les gens puissent télécharger puis écouter ensuite dans leur voiture. Comme ça, dans leur voiture avec le confinement, c'est pas vraiment le moment. Mais enfin bon, disons, écouter chez eux.
En sonnerie de téléphone, par exemple,
ça fait son petit effet, effectivement. Olivier Pouls, bientôt, vous allez nous raconter l'histoire de la Madeleine, son origine et puis évidemment, éventuellement, sa recette aussi.
Oui, bien sûr.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Comme on le démontre, j'espère, chaque après-midi, l'histoire est tout sauf barbante. Elle est rieuse, divertissante, hein, Stéphane, palpitante.
Oh oui, vraiment.
Surtout
oh oui.
En compagnie d'invités eux-mêmes palpitants. Mais bon, vient quand même un moment où cet humain, au milieu de la deuxième interview, on pense au dîner.
Moi, j'ai apporté quelque chose dans la biographie de Mirabeau, c'est qu'il avait, par sa grand-mère Lange, des origines juives.
Ah, à bientôt l'heure de les bouffer.
Tu parles, j'ai faim.
Olivier Pouls, vous tombez à pic. C'est vrai que même quand on aime l'histoire, à un moment, on a faim.
Raison.
On est des hommes.
L'histoire nous nourrit, mais pas l'estomac.
Là,
nous nourrit l'âme.
C'est l'heure du goûter, un goûter un peu tardif. Néanmoins, pourquoi pas une petite madeleine? D'où vient cette petite... D'ailleurs, c'est quoi? C'est pas une pâtisserie, c'est quoi une madeleine?
Oui, c'est une petite pâtisserie. Petite pâtisserie. Ben, écoutez, elle est née en 1755 dans son beau château de Commercy. L'ex-roi de Pologne, Stanislas Lewinsky, donne un repas.
Je crois plutôt que c'était à Lunéville, si je puis me permettre. C'est au château de Lunéville qui a brûlé. C'est la célèbre Madeleine qui, elle, venait de Commercy. Mais le roi Stanislas
avait son château à Lunéville.
Voilà.
Et il n'y avait pas de château à Commercy?
Écoutez, il y a peut-être un château à Commercy, mais en tout cas là,
lui était plutôt basé à Lunéville.
Lui était basé au château de Lunéville.
C'est une véritable controverse.
Cette émission va être prise. On va enquêter.
Mais en tout cas, il donne un dîner. Et manque de peau, son cuisinier s'est fâché avec son intendant. Le cuisinier a claqué la porte, il est parti. Et en tout cas, avant le dessert, et il les laisse sans dessert.
C'est terrible.
Alors, heureusement, il a une petite Madeleine qui est là, qui est apprentie, femme de chambre, qui dit « Mais moi, j'ai une petite recette qui pourrait faire l'affaire. Je la tiens de ma grand-mère, d'ailleurs, et si vous voulez, ben, je vais vous la faire. » Donc, elle apporte ces petits biscuits ou ces petites pâtisseries qu'elle confectionne elle-même. Évidemment, succès total. Tout le monde se régale de ces petites pâtisseries. Et en son honneur, il les nomme Madeleine. Bien sûr, ça c'est la légende et probablement il y a un fond
de vrai. Non, c'est la vérité. Mais j'ai fait une erreur. Il a passé l'été de 1748. Pardon, je fais mon mea culpa.
Stanislas Leszczynski a passé
l'été de 1748 au château de Commercy. Et c'est là où Madeleine Pommier lui a fait les madeleines de Commercy au château de Commercy. Vous avez mille fois raison. C'est pas la légende, c'est l'histoire.
Eh bien, merci de ces précisions. En tout cas, très rapidement. L'un des pâtissiers qui va apprendre la recette, bien sûr, va ouvrir à Commercy une petite boulangerie-pâtisserie dans laquelle il va vendre ses madeleines. Là aussi, succès incroyable. Petit à petit, bah, elles sont copiées. Il y a des fabriques un peu plus industrielles qui s'ouvrent. Et puis, en 1852, est inaugurée la ligne de train entre Paris et Strasbourg par Louis-Napoléon. Il s'arrête dans la région, il déguste les madeleines, lui aussi est charmé et comblé, et c'est cette ligne de train qui va permettre aux madeleines de quitter la région, d'arriver à Paris et de rencontrer le succès qu'on leur connaît.
Moi je n'en peux plus de ces choses historiques, je veux savoir comment on fait la madeleine, Olivier.
Alors, pour la faire, c'est extrêmement simple et c'est très rapide. Alors, 250 g de farine, 150 g de sucre, une cuillère à soupe de miel, ça c'est ma petite astuce parce que j'aime les madeleines aromatisées au miel, 100 g de beurre, voilà, une cuillère à café de levure, 4 œufs et une pincée de sel. Alors, c'est très simple, hein, vous allez blanchir les œufs avec le sucre, hein, c'est-à-dire les mélanger assez vigoureusement. Vous allez rajouter la farine, le miel, la levure, le sel, on mélange tout ça, on rajoute le beurre fondu et on laisse reposer pendant quelques minutes. On verse dans les moules. Alors, les fameux moules, ceux-là, ils existent depuis bien avant l'invention de la madeleine.
Mais c'était des moules à quoi, alors?
Mais c'était des moules qui étaient, comme vous pouvez le voir, en forme de coquille Saint-Jacques.
Oui.
Et c'est des moules qui servaient au Moyen-Âge à confectionner des petits biscuits pour les pèlerins parce que bah, ce moule, la coquille Saint-Jacques, c'est l'emblème du chemin de Compostelle. Donc, c'est des moules qui existaient déjà. Donc, il vous faut évidemment ce moule parce que la particularité de la madeleine, c'est quand elle va cuire, elle va bomber, puis vous savez, vous avez une petite bosse qui va se créer. Ça vient tout à fait naturellement. Le moule, en fait, lui, il dessine juste le dessous de la madeleine, ce côté un peu coquille Saint-Jacques. Et donc, l'astuce pour la cuire, c'est 3 minutes à 240 degrés. Ensuite, on baisse le four à 180 et on laisse encore 12 minutes.
Est-ce qu'on est en chaleur courante, Olivier? C'est important de le préciser à nos auditeurs.
C'est idéal et je sais que vous êtes bien équipé. Donc, vous allez pouvoir vous mettre en chaleur tournante. C'est encore mieux.
Bon, allez-y mollo sur la gourmandise quand même.
Allez-y mollo, justement, c'est l'expression que vous allez décrypter pour nous aujourd'hui, oui. Stéphane, dans le mot de la fin.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Stéphane, vous allez nous donner dans quelques secondes le mot de la fin. Mais moi, j'ai ouvert ma petite carte que nous a offert David Castello-Lopez, carte d'anniversaire. Je pensais qu'il n'avait rien écrit dedans, que c'était pas fait chier. Mais c'est très joli, il a mis mon âge, 38 ans. Joyeux anniversaire à celui qui ne dunk plus, bon, petit tacle, mais qui reste bien classe quand même, David. Et je trouve que c'est tellement mignon d'avoir vraiment fait, de ne pas s'être contenté d'avoir acheté la carte pour faire un geste d'antenne comme ça, mais de nous avoir vraiment écrit un petit mot. Je trouve ça particulièrement touchant, David. Et je tenais à vous faire un petit bisou virtuel comme ça. Stéphane, c'est à vous pour le mot de la fin.
Oui, Mathieu, merci. Quand je vous écoute parler, quand du coin de l'œil, je vous observe faire feu de tout bois avec votre débit de mitraillette, quand vous faites des blagounettes à la vitesse de l'éclair, j'ai parfois envie de dire « Allez, Mathieu, calme-toi, prends le temps, vas-y mollo ».
Donc, non seulement vous me tutoyez, mais en plus, vous me demandez de me calmer. Faites-vous pardonner en nous expliquant d'où vient cette expression « vas-y mollo ».
Eh bien, imaginez-vous que ça vient de l'argot italien. Cela vient de molare.
Molare.
Mola, pas volare, molare. Comme un molar. Qui signifie abandonner. Mollo, c'est laisse tomber, lâcher, mais aussi mouiller, tremper. Et là, c'est très amusant, car coïncidence ou pas, en français, en langage marin, quand on pouvait prendre une barque et gagner la terre à la rame, on disait aller à la molle eau. L'eau est calme, on navigue doucement, on y va molle eau.
Oh tout se recoupe. Ma vie va changer, Stéphane.
Quand on y va mollo, on se fatigue pas et généralement, on fait mieux les choses. Comme le dit le célèbre proverbe italien, qui va piano va sano. Un proverbe grec dit lui, quiconque se dépêche trébuche. Aux États-Unis, slow and steady wins the race. Qui va lentement et régulièrement gagne la course. Cela fait penser au lièvre et à la tortue de la fontaine, alors qu'en Pologne existe également un très joli dicton, la hâte est indiquée seulement pour attraper les puces.
Oui, mais ils savent pas chanter joyeux anniversaire, les Polonais.
Non, c'est vrai.
Ça.
Alors, vous savez, moi aussi maintenant, je vais ouvrir ma carte. Si vous permettez.
Ouvrez votre carte, Stéphane.
Ah, oh, c'est gentil.
Qu'est-ce qui vous a mis comme flagornerie?
Bravo pour ton âge, j'aimerais avoir le même, car ça voudrait dire que j'y serais arrivé. Oh, c'est gentil, c'est gentil.
Ben oui, c'est vrai, parce que moi, peut-être, je vais mourir l'année prochaine. Mais...
Là, non, la vacherie est sublime, mais c'est gentil, très beau.
Et ben, moi, j'ai tout pris au premier degré, oui.
Non, mais ça l'était, c'est Mathieu Noël.
C'est adorable,
qui
merci. Oui. Il salissait tout, Mathieu Noël.
Oui, c'est vrai, c'est mon métier. Historiquement vôtre et nos adeptes du journal intime, c'est terminé, les amis. Stéphane, lequel de nos diaristes vous a le plus surpris aujourd'hui?
Écoutez, j'ai beaucoup aimé, honnêtement, l'histoire de Samuel Pepys.
Ben oui, assez méconnu.
Assez méconnu, et puis surtout, ça m'a donné envie de me replonger dans son journal intime et d'essayer de retrouver le Londres de 1660.
Oui, sympa avec la peste. Et qu'est-ce qui nous atteint demain, Stéphane?
Bah, une autre peste.
Ah oui.
Demain, Mathieu, appelez-moi maître.
Je peux vous appeler carrément votre Altesse si ça vous fait kiffer. Hein.
Non, ça m'a jamais fait kiffer. Mais notre thème demain, oui, ce sont les grands avocats de l'histoire. De Pierre-Antoine Berryer, qui a laissé son nom à un concours d'éloquence entre avocats, à Gisèle Halimi. Et vous, quel maître célèbre vous avez choisi, Mathieu ?
Maître Yoda, je n'avais pas compris le thème, ça passe quand même.
Vous avez peut-être le temps d'écrire un autre thème, un autre portrait demain.
Non, parce que ce soir, en fait, je dois faire des madeleines, et puis après j'ai rendez-vous, donc
bon.
Non.
Ok, bon, allez, ça ira pour Maître Yoda. Okay. Je vous dis donc, dégustez vos madeleines, et à demain, Mathieu.
Et moi, à demain, je vous dis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.